Vous êtes bien l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue et www.rfpp.net pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Et cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h. Et nous sommes maintenant en compagnie de Madame Maran Michon. Bonjour Madame Maran Michon.
Bonjour Monsieur Haussmann.
Et juge des enfants au tribunal de Créteil.
C'est ça, exactement. Tribunal pour enfants de Créteil, oui.
Et avec Renaud Bandel, qui est éducateur et syndicaliste, et je crois que vous êtes aussi syndicaliste, Madame Maran Michon.
Oui, au syndicat de la magistrature.
Bonjour Renaud.
Bonjour.
Et donc, on va parler maintenant continuer à parler des mineurs isolés étrangers. Hein, c'est des choses qui font, dont on parle beaucoup et à peu près chacune de nos émissions, hein, avec les évacuations qu'on a vues partout, toutes les mobilisations qu'il y a actuellement à Paris. Mais ce serait peut-être bien de revenir déjà sur le cadre général, et je crois qu'on ne dit plus mineurs isolés étrangers.
Non, ah, c'est très bien. Effectivement, depuis la loi de 2016, comme on le rappelait tout à l'heure, on parle de mineurs non accompagnés. On ne prononce plus le mot étranger, non, non. C'est les mineurs non accompagnés. C'est vraiment le terme officiel qui est repris par la loi, d'ailleurs. Hein. Mineurs non accompagnés. Et loi qui a été intégrée dans la loi du 14 mars ou 12 mars ?
14 mars.
C'est le 14 mars, oui, 2016. Voilà, ouais. Qui est vraiment une loi très importante, puisque le gouvernement a intégré tout ce qui concerne les mineurs isolés, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, puisque c'était que d'une circulaire. La circulaire Taubira. Maintenant, c'est d'intégrer dans la loi et dans la loi de la protection de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va considérer le mineur non accompagné comme un mineur en danger, au même titre qu'un autre mineur dont on s'occupe régulièrement et qu'on connaît, quoi. Voilà, donc ça, c'est une grande avancée, à mon avis, et très important que ça soit inscrit dans la loi.
Il y a eu des choses qui étaient quand même dans cette loi et qu'on avait pas mal dénoncées en 2016, et des choses qui étaient un peu moins des grandes avancées.
C'est vrai qu'on espérait tous qu'il y aurait des amendements qui passeraient pour proscrire absolument les examens de maturation osseuse, les tests osseux. Mais malheureusement, le gouvernement en a décidé autrement puisqu'ils ont inscrit les tests osseux dans la loi. Alors en argumentant que c'est pour mieux les encadrer, hein, puisque effectivement on proscrit désormais les examens de puberté des organes génitaux, mais par contre c'est tout à fait mis dans la loi que malgré toutes les incertitudes qu'il y a autour des radios osseuses, que maintenant désormais le magistrat ou le procureur peut ou doit s'appuyer sur les examens osseux dans le faisceau d'indices permettant de dire si le jeune se présentant au service de la protection de l'enfance est mineur ou pas.
Oui, mais je veux apporter une nuance à ce que dit monsieur. C'est-à-dire que cette loi, elle dit qu'effectivement, il y aura l'examen éventuellement osseux, mais c'est éventuel. C'est-à-dire qu'il faut un faisceau d'indices. Vraiment. Le plus important, c'est l'évaluation. C'est-à-dire après avoir rencontré psychologue, éducateur, voilà. Et éventuellement les papiers, si le jeune en a. Et un faisceau d'indices, ça peut être éventuellement l'examen osseux. Mais ce n'est pas que l'examen osseux. Non, non, la loi parle de faisceau d'indices. Donc on n'est pas basé que sur un élément. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui peut conduire à dire que cet enfant est mineur ou pas. Donc ça, c'est important. On ne peut pas se contenter d'un examen osseux pour dire qu'elle est majeure. Non, 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 il faut vraiment... si vous avez l'examen, l'entretien, les papiers qui amènent à penser que cet enfant est mineur, même si l'âge osseux, puisqu'on sait qu'il y a quand même une marge d'erreur, on le sait bien, dit qu'il a une marge d'erreur qu'il ferait peut-être majeure, on prendra le faisceau d'indices qui indiquera qu'il est mineur. Il faut que ça lui bénéficie. Donc c'est vraiment un faisceau d'indices, hein, ce n'est pas un examen.
Et on a vu des gamins qui ont été déclarés quand même, qui changent d'âge selon les tests osseux qu'ils font.
Qui avait
une épaule, je pense à Al-Kassim à Lyon, qui avait une épaule, je crois un poignet qui disait 17 ans, c'était trop jeune. Donc on a fait, je ne sais plus si c'était la clavicule ou l'omoplate.
Mais en tout cas, c'est bien la preuve que c'est pas...
Et qui lui donnait plus de 30 ans.
Ah bon?
Donc on fait la moyenne et c'était minorité exclue.
Ah bon, ça, moi, je n'ai jamais vu cela. Mais de toute façon, cet exemple est vrai. Moi, je pense qu'il est vrai, mais c'est bien la preuve que ça ne suffit pas. Hein, parce qu'il y a une marge d'erreur très importante avec... L'âge osseux, on met la marge d'erreur jusqu'à 2 ans quand même, hein, ce qui est quand même pas mal. Hein.
Et puis si on revient sur les tests osseux, je crois que ces tests osseux, c'est des tests qui n'ont jamais été faits dans une optique de médecine légale. Hein, c'est des tests qui sont faits, on parle, qui mesurent la calcification au départ du poignet.
Puis d'une certaine population, qui n'est plus la population actuelle. Hein.
Et puis, donc, ça va donner un âge qu'on appelle un âge osseux, mais l'âge osseux, ça, c'est une unité de calcification du poignet. Ça n'a rien à voir avec quelque chose pour un âge légal. C'est un petit peu comme... Et quelqu'un que je connais très bien s'habille à un peu plus de 50 ans, mais s'habille avec des vêtements de 16 ans. Ça n'est pas la preuve qu'elle a 16 ans.
Oui, mais c'est bien pour ça, à cause de leur... du fait qu'ils ne soient absolument pas fiables, qu'on souhaitait vraiment que ces examens soient proscrits. Et il y a eu une campagne de RESF, du reste, en 2014-2015, avec des signatures des plus grands médecins, etc., français, pour dire non, il faut proscrire les tests osseux. Malheureusement, ça a été mis dans la loi. Maintenant, c'est un fait, c'est comme ça. Alors, pour pallier à ça, il y a d'autres méthodes d'investigation, ou en tout cas d'autres indices permettant d'avoir un faisceau d'indices pour se prononcer sur la minorité ou pas. Il y a l'examen des documents d'identité lorsque le jeune présente des documents d'identité. Et il y a aussi donc ce qui a été mis en place à partir de 2011 et plus généralisé à partir de 2013, c'est les entretiens d'évaluation par des dispositifs d'évaluation qui sont maintenant généralisés quasiment à tous les départements. Et si on regarde l'entrée dans les dispositifs de protection de l'enfance, que ça soit sur Paris, Créteil ou Bobigny, puisque moi je connais un petit peu cela, il y a des disparités aussi sur la manière dont finalement l'évaluateur ou les évaluateurs vont se prononcer sur la minorité du jeune ou pas. Je vais prendre deux exemples. Paris. Aujourd'hui, c'est opéré par un dispositif qui s'appelle le DEMI, dispositif d'évaluation mineur isolé étranger. Tout jeune qui se présente à Paris pour être aidé dans le cadre de la protection de l'enfance doit passer par ce bureau unique d'évaluation. Il apparaît aujourd'hui que le DEMI, il a ouvert il y a à peu près un an. Avant, c'était une autre association qui opérait cette évaluation, ça s'appelait le PAOMI. Et le DEMI, on note, nous, dans nos permanents juridiques, qu'il y a à peu près 80% des jeunes qui se présentent au DEMI qui sont refusés, auxquels l'évaluation ne conclut pas en faveur de la minorité. Et lorsque ces jeunes viennent nous voir pour qu'on les aide à saisir le juge pour enfants à Paris, à peu près 50% de ces jeunes qui ont été refusés sont finalement intégrés à la protection de l'enfance. Donc il y a bien là un problème dans l'évaluation, en tout cas dans la décision, puisque ce n'est pas l'évaluateur qui prend la décision, c'est le département de Paris qui notifie la décision et qui éventuellement, et on l'a vu, peut revenir sur ce malgré une évaluation plutôt en faveur de la minorité, peut finalement revenir là-dessus en disant « le récit que vous présentez, que vous avez présenté lors de l'évaluation est trop lacunaire, et par ailleurs vous ne présentez pour pièce d'identité qu'un acte de naissance qui ne peut pas se rattacher à votre personne, donc vous ne pouvez pas disposer du bénéfice de la protection de l'enfance ». Et ça, 80%, ça fait quand même beaucoup. Et je ne dirais pas qu'ils sont tous mineurs, ceux qui se présentent bien sûr, mais 80% de refus, ça fait vraiment beaucoup.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le Val-de-Marne. Mais en tout cas, cette critique de l'évaluation, elle a été reprise encore dans la loi, puisque maintenant, il a été inscrit dans la loi une formation très sérieuse de gens pour évaluer justement ces jeunes mineurs, ces migrants qui viennent de tous les pays du monde. Donc il y a une formation qui se met en place. La première a eu lieu au mois de septembre à Angers. C'est la protection judiciaire de la jeunesse qui met ça en place. La prochaine a eu lieu en septembre, pardon, et la prochaine aura lieu en janvier. Il y a une très forte demande justement de qualification, d'évaluation, parce que souvent c'était qu'une personne et puis c'est tout, selon le récit que faisait l'enfant, avec toutes les difficultés, pas oser parler, la timidité. Alors normalement il y a toujours un interprète, mais des fois c'est pas toujours de bonne qualité, voilà. Donc le gouvernement a mis aussi l'accent, et c'est dans la loi encore, donc c'est une avancée, qu'il faut une qualité des évaluateurs au fin de déterminer, de pouvoir entendre ce discours et ce que racontent les enfants, quoi. Donc ça c'est une avancée, hein. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a eu que 100 formés en septembre, il y en aura encore une centaine de formés à Angers au mois de janvier, c'est à Angers que ça se passe, hein. Mais c'est une avancée, parce que l'idée du ministère, hein, quand on avait participé à leurs travaux, c'était de dire qu'il faudrait au moins moins une évaluation commune interrégionale, disons au moins régionale, quoi. Qu'on ait à peu près tous la même manière d'évaluer les mineurs non accompagnés, qu'il n'y ait pas Créteil, Paris et Bobigny. Donc on est en train de former des gens pour qu'il y ait une même approche, une même évaluation, comme il y a une école qui forme les magistrats ou une école qui forme les éducateurs de la PJJ. C'est un peu l'idée d'avoir une même formation pour l'ensemble des futurs évaluateurs. Donc ça aussi, c'est un progrès, à mon avis. Mais bon, ils ne sont pas encore tous préparés, hein, ils ne sont pas encore tous formés, ça c'est vrai. Ça vient juste de commencer septembre et puis le prochain janvier. Alors.
Bah, sur ces évaluations, depuis la circulaire de mai 2013, il y a une trame nationale, enfin, pour un guide pour le suivi de l'entretien, pour quelles sont les questions qu'on va poser aux jeunes sur son origine, la composition de sa famille, sa scolarisation et autres. Mais c'est vrai que la circulaire stipulait également que les entretiens devaient avoir lieu avec une équipe pluridisciplinaire.
Voilà, qui n'existe pas.
Ce qui n'existe pas, malheureusement, là. Et bien souvent, c'est un seul entretien avec une seule personne qui, bah, c'est difficile pour cette personne aussi. Hein, c'est assez arbitraire de se dire, au bout de trois quarts d'heure, une heure, bah, vu les éléments du récit, vu le comportement du jeune, ce que je peux observer, etc., bah, est-ce qu'il est mineur ou est-ce qu'il n'est pas mineur ?
Être tout seul, c'était trop difficile. Et c'est vrai que, bon, mais ce n'est pas encore fait, hein, ça c'est en train de se faire. C'est quand même mieux d'avoir une équipe pluridisciplinaire qualifiée qui pourra avoir elle aussi un faisceau d'indices pour dire si effectivement il est mineur ou pas.
Alors moi, il y a quand même une chose avec ça qui m'inquiète un peu, c'est que quand on voit que tous les dispositifs ou énormément de dispositifs sont quand même pas très favorables aux étrangers en général et aux mineurs en particulier, est-ce que l'objectif de cette évaluation, ça va pas finalement de faire des critères qui vont les déclarer aussi souvent majeurs qu'on peut ?
Je ne vais pas vous répondre, c'est un point d'interrogation. Je pense qu'il faudra être vigilant sur la qualité des évaluateurs, hein, et qu'il faudra qu'on soit vigilant sur la lecture de leur rapport, qu'on soit vigilant de savoir qui a fait ce rapport. Est-ce que la personne est seule ? Est-ce qu'il y a un psychologue ou un anthropologue ou quelqu'un qui connaît le pays ? Parce que ça aussi c'est important pour nous apporter des éléments. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils n'ont que 5 jours pour évaluer, c'est trop peu. Hein. Donc de toute façon, il faudra prolonger l'évaluation, parce que 5 jours, même si ça va être pluridisciplinaire, vous n'avez pas le temps de pouvoir avoir un regard pluridisciplinaire en 5 jours. C'est trop rapide, 5 jours. Hein. Voilà, donc, mais c'est sûr que cette formation, il faut qu'elle s'accélère, hein, et qu'elle soit dans tous les départements. Ça ne l'est pas encore, bien sûr. Hein, bien sûr. Voilà, déjà entre Paris et... Parce que nous, on ne refuse pas 80%. Hein. Dans le Val-de-Marne, là-dessus, il y a peut-être des critiques à porter, mais pas celle-ci. Il y a un gros, gros effort fait de...
Mais il y a une différence quand même sensible entre Paris et le Val-de-Marne, c'est que Paris, au cas où le jeune est évalué, déjà, il est normalement mis à l'abri dès qu'il se présente au dispositif d'évaluation. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas, mais en tout cas, les efforts sont faits pour que ça s'améliore, nous dit le département de Paris. Mais là où il y a une grosse différence, c'est que le jeune qui est refusé, auquel l'évaluation conclut à la majorité qu'il n'est pas mineur, il peut effectivement s'adresser au juge des enfants, saisir le juge des enfants pour demander une audience en disant « mais moi je suis mineur, voilà,
je conteste,
suis tout seul, je conteste la décision ». Dans le Val-de-Marne, lorsque ça se produit, généralement, il vient quelques jours après la notification de la décision de refus au tribunal. Et puis, on va lui donner un rendez-vous pour une semaine, 10 jours, 15 jours après maximum. À Paris, le problème, c'est que lorsqu'il va saisir le juge des enfants, ça va prendre 2 mois, 3 mois, voire plus, parfois, avant qu'il puisse voir le juge des enfants. Et sur les 80% qui ont été refusés, quand je disais, il y en a 50% qui sont finalement reconnus mineurs, d'après les statistiques qu'on a à l'ADJI, à la permanence juridique, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui partent dans la nature aussi, parce que 3 mois, 4 mois à attendre encore à la rue, c'est difficile, c'est vraiment pas possible pour ces jeunes-là. Donc ça, c'est une première différence assez grande. La deuxième différence assez grande, c'est qu'effectivement, le jeune à Paris qui va être finalement reconnu mineur et donc protégé, il va être d'abord accueilli par l'aide sociale à l'enfance dans ce qu'on appelle l'accueil temporaire. C'est l'article L223.2. Il va être généralement mis à l'hôtel, si pour les plus jeunes, dans un foyer, et il va attendre de pouvoir rencontrer le magistrat. Et là, ça va prendre aussi un peu de temps à Paris, 2 mois. Voire plus. Le magistrat, bien souvent, va demander dans cet intervalle que les documents d'identité soient remis en vue de les faire authentifier, et éventuellement un âge osseux. À Créteil, il me semble que lorsque le service d'évaluation reconnaît la minorité du jeune, il est effectivement accueilli de manière temporaire par l'aide sociale à l'enfance, mais très très vite, il voit le juge pour enfants, ainsi que la circulaire Taubira le précise, c'est-à-dire au bout des 5 jours, 8 jours maximum d'évaluation, le procureur est saisi, et si le jeune est évalué mineur, le juge des enfants...
Oui, ça c'est facile. Ouais.
Ouais, là, dans le Val-de-Marne,
il n'y a pas de problème.
C'est rapide, alors qu'à Paris, c'est, là encore, on est sur des durées longues.
Et je crois qu'on a des problèmes maintenant qui apparaissent dans le Val-de-Marne, qu'on n'avait pas il y a encore quelques années, et que ça se compliquait.
C'est-à-dire que la difficulté pour les mineurs non accompagnés, c'est l'âge à laquelle ils se présentent. Un gamin qui a 17 ans ou plus, c'est vrai qu'il n'est pas aussi bien pris en charge que s'il a entre 16 et 18. Et s'il a moins de 16, il n'y a pas de souci, c'est la meilleure situation. En plus, il aura la nationalité française, il n'y aura pas de difficulté. Entre 16 et 18, il faut vraiment que ça soit 16 pour qu'il ait le temps à la fois d'intégrer un circuit. Parce que bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les départements ont des problèmes financiers. Donc l'idée de tous les départements à l'heure actuelle, c'est de dire très vite, vous devez apprendre la langue française et très vite trouver une formation qualifiante. Qui fait que très vite, vous allez devoir vous débrouiller quand vous aurez 18 ans. Donc, c'est ça l'idée, hein, parce que même les autres mineurs qui ne sont pas mineurs non accompagnés, on fait de moins en moins de contrats jeunes majeurs. Et en tout cas, s'il y en a, ils sont de courte durée. L'idée étant, vous devez très vite vous prendre en charge. Après, ce qui ne vous empêchera pas, moi je leur dis aux jeunes, hein, de recommencer des études et de pouvoir faire ce que vous voulez. Mais quand on les voit, on leur dit, il faut très vite que vous réfléchissiez à la qualification la plus simple, ou en tout cas la plus porteuse. Ça dépend de votre niveau scolaire. Donc, la difficulté sur le Val-de-Marne, c'est ceux qui ont plus de 17 ans. Où là, effectivement, il y en a beaucoup qui sont pris en charge quand même à l'hôtel. Et c'est difficile de trouver des foyers après 17 ans qui les acceptent. Pour certains, il y a certaines structures d'autonomie, hein, mais c'est quand même pas si fréquente que ça. Et à 18 ans, souvent, on leur dit, bon, bah, maintenant, c'est fini. À 2-3 mois près. Hein, parce que la loi impose maintenant à l'approche des 18 ans, tout enfant qui a commencé un cursus scolaire doit le finir dans l'année. Donc s'il a 18 ans au mois de mars, on est obligé de l'accompagner jusqu'à la fin de l'année scolaire au mois de juin. Voilà. Et normalement, avec la nouvelle loi de 2016 aussi, on doit préparer dans l'année des 17 ans l'après 18 ans. Voilà, ça doit avoir un projet, ça doit être noté et préparé avec le jeune pour pas qu'à 18 ans, on soit embêté et qu'on ne sache pas quoi faire. Voilà. Donc c'est plus la difficulté dans le Val-de-Marne, c'est plus selon l'âge à laquelle ils arrivent. C'est plus ça.
Il y a une autre difficulté que moi j'ai pu constater au fil des années, et ces dernières années, c'est que le département du Val-de-Marne était, jusqu'à il y a 2 ans, un des départements pilotes, on va dire, un des départements les plus favorables à l'accueil des mineurs isolés étrangers, en tout cas dans la manière de les accueillir, était plutôt un bon exemple. Maintenant, depuis 1 an et demi, on a constaté un revirement radical, puisque on a maintenant le département qui fait systématiquement appel des décisions de protection des juges des enfants, et que ça ne va pas sans nous poser problème à nous, éducateurs.
Alors attendez, il faut préciser qu'ils font appel quand le jeune a été déclaré mineur, majeur, pardon, et que nous, on considère qu'il est mineur. C'est dans cette situation-là. Hein. C'est-à-dire que si le parquet... Moi, je ne crois pas avoir vu des décisions où lorsque le parquet considérait qu'il était mineur et que France Terre d'Asile considère qu'il est mineur, il n'y a pas d'appel. C'est quand nous, on conteste... Enfin, quand le jeune vient devant nous contester la décision de France Terre d'Asile et du procureur et que nous, on va dans le sens du mineur et non pas dans le sens du procureur, que là, il y a systématiquement appel.
D'accord, mais effectivement, ça a quand même des conséquences, puisque nous, on les accueille. Si le juge des enfants a pris une décision de protection, même si à l'origine, France Terre d'Asile était plutôt en défaveur de la prise en charge, le jeune, il va rester chez nous, il va commencer un parcours d'insertion, il va être inscrit à l'école, et j'ai l'exemple d'un jeune qui a été pris en charge chez nous dans notre centre, dans notre service d'accueil d'urgence pendant 6 à 7 mois. Il a commencé une scolarité en UP2A, c'est les classes d'accueil pour ceux qui ne sont pas francophones. Il est excellent, il était dans les premiers de sa classe. Il devait entamer un CFA en pâtisserie ou je ne sais plus quel domaine en septembre, sauf que le département avait fait appel de la décision du juge des enfants et qu'il s'est retrouvé à passer à la cour d'appel de Paris avril ou mai, avoir la décision 3 semaines, 1 mois plus tard. Et la décision, c'était une main levée parce que le document d'identité présenté, malheureusement, il y avait de sérieux doutes quant à son authenticité. Pourtant, ce jeune, il n'y a pas photo pour nous éducateurs qu'il est mineur et qu'il aurait dû pouvoir continuer. Alors maintenant, il y a une décision de justice, donc l'établissement qui l'accueillait a été obligé de lui dire de partir. Et que ce jeune-là, aujourd'hui, n'a pas pu continuer sa scolarité, dort dans un foyer malien dans des conditions très précaires et espère pouvoir quand même réintégrer sa scolarité, mais pour l'instant, ce n'est pas gagné.
Bah ça, c'est le droit commun. Hein. On a le droit de faire appel. Hein. Donc, le conseil départemental est une partie, donc elle a le droit de faire appel. Et évidemment, celui qui aura le dernier mot, c'est la cour d'appel. Hein. Si la cour d'appel nous confirme, ben, il n'y a pas de souci. Si elle ne nous confirme pas, malheureusement, ça s'impose immédiatement aux jeunes et aux juges hein, des enfants. Ils ne peuvent pas revenir sur cette décision. C'est la cour d'appel qui aura le dernier mot. Donc effectivement, mais ça, c'est un droit qu'exerce le conseil départemental.
Voilà, ce qui met des situations
difficiles, bien sûr.
Parfois extraordinairement difficiles.
C'est tout à fait. Que l'exemple que donne monsieur, c'est évident.
Et puis on voit en plus des situations, donc ça on en parlait, et cette évaluation qui est faite de façon très bizarre. On a les mêmes mômes qui seront évalués majeurs dans un département, ça je crois qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui seront évalués mineurs dans un autre département. On a même des parties du corps qui peuvent être évaluées mineures et une autre partie du corps évaluée majeure. Et puis c'est quand même quelque chose qui n'est pas sans poser de problème quand on a des gamins qui ont vécu des guerres, des révolutions, qui sont des situations suffisamment terribles pour les faire partir, qui sont venus ou qui ont été envoyés par la famille et qui sont venus à pied, qui ont traversé, qui la Libye, qui le Soudan.
Mais c'est vrai, moi j'insiste, en tout cas moi en tant que juge des enfants, l'âge osseux, c'est pas le seul élément. Hein. D'ailleurs, moi, en tant que juge des enfants, je n'ordonne jamais un âge osseux. Vraiment. Sauf si le mineur me le demande. Ça, je le fais, bien sûr, s'il me le demande. Déjà, il faut avoir son accord maintenant. Hein. Et c'est vrai que la loi de 2016, je répète, elle a quand même insisté sur le fait qu'il fallait un faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se baser. On ne peut pas se baser à l'heure actuelle que sur l'âge osseux. Et l'âge osseux doit être ordonné en dernier recours. Hein, c'est pas l'âge osseux. Hein. La priorité, c'est l'évaluation par une équipe pluridisciplinaire et les papiers. Hein. Et effectivement, en dernier recours, effectivement, on peut avoir recours. Alors, ça peut-être exister ce que vous dites, hein, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune décision qui se basera sur l'âge osseux. Ça, c'est pas vrai. Bah, en tout cas, pas à ma connaissance. Hein, c'est pas possible.
Uniquement sur l'âge osseux, mais c'est.
C'est pas possible. Non. À mon avis, non. Mais bon, surtout depuis la loi de 2016, qui est vraiment très claire. Ce qui est quand même bien dans cette loi, c'est que pour une fois, elle intègre les mineurs non accompagnés comme des vrais mineurs. En danger, c'est-à-dire aller dans la loi de la protection de l'enfance, qui est quand même une avancée. Hein. Et donc, elle insiste sur le fait de cette évaluation, donc je répète, la qualité des évaluations, la pluridisciplinarité, et puis les papiers. Dernier recours, ça peut être l'âge osseux. Et encore, il faut l'autorisation, l'accord du jeune, hein, mais bon.
Là, c'est un peu plus sur Créteil, puisque sur Paris, je crois que 80% des mineurs sont déclarés majeurs.
Oui, mais pas qu'avec l'âge osseux, à mon avis, ça m'étonnerait.
Non, ça c'est par l'évaluation.
Oui, voilà, parce que l'âge osseux, c'est pas sociale, possible. Hein. Ça peut pas être possible que par l'âge osseux, c'est absolument interdit, je veux dire. Voilà, ça peut être qu'un complément. L'âge osseux, c'est vraiment le dernier recours, avec l'accord du mineur d'ailleurs. Hein. Il faut toujours l'accord du mineur. Et puis maintenant, comme dit monsieur, l'interdiction de tout ce qui est, tout ce qui est révélateur de la puberté, c'est interdit.
Oui, d'ailleurs, il y avait eu une action qui avait été entreprise ou qui était menacée d'être entreprise par l'UJISTI sur pédopornographie, à propos des fameuses évaluations où les enfants devaient désigner sur des dessins
ah bon
d'organes génitaux où en étaient leurs organes génitaux.
Ah bon?
Et donc l'UJISTI, c'était il y a quelques années, l'UJISTI avait
attaqué, bah,
allait entamer une. Ça, je ne sais pas si Renaud, tu as suivi ça.
Je me souviens d'avoir entendu parler de cette action ou de ce projet d'action. Et bon, enfin, maintenant, de toute façon, c'est proscrit. Et tant mieux.
Oui, tant mieux, parce que ça, c'est sûr. Hein, c'était un peu humiliant. Hein.
Alors, sinon, quelques histoires comme ça, un petit peu partout dans la France, parce qu'on voit, une grande. Déjà une disparité sur deux départements de l'Île-de-France. que sont Paris et
Val-de-Marne, et on est très proche.
Le Val-de-Marne, où c'est très proche. Hein. Bah, quelques extraits de mails hein, sur les listes RESF. Donc, ça se passe à Beauvais. Hein, c'est donc un mail de Francis Descroisettes, RESF Beauvais, hein, qui dit « Bonjour, une décision relative à un mineur isolé à Beauvais, dans l'Oise. Ce jeune a été rencontré par deux éducateurs de la ville de Beauvais. Et il leur a dit être mineur, 15 ans, ce qu'il semble être lorsqu'on le voit. Ces éducateurs l'ont amené à la maison de l'enfance de Beauvais, où il a été reçu en entretien sans les éducateurs. Il en est ressorti avec une décision indiquant qu'il n'était pas mineur. C'est l'un d'entre eux qui l'a accompagné à notre permanence du 2 novembre pour nous faire part de cette décision. » Ça, c'est donc à Beauvais dans l'Oise, hein. Bah, toujours à Beauvais, hein, donc mineur, hein, on lui a dit. Oui, c'est un adjoint responsable de la protection de l'enfance hein, qui lui a dit « Vous ne disposez d'aucun bagage qui pourrait tester d'un si long périple. » Toujours, donc ça c'était encore à Beauvais, c'est un jeune Congolais hein, donc, à qui on a dit quasiment mot à mot qu'il était trop bien vêtu, trop propre, avec un téléphone, avec des contacts en Europe. Le juge des enfants a donné finalement, c'est l'ASE qui avait dit ça, le juge des enfants a donné tort à l'ASE, qui a obligé l'ASE à le reprendre en charge et à lui donner son acte de naissance qui avait été gardé par l'ASE. Acte de naissance qui n'a pas...
On n'a pas le droit, hein, ça c'est vrai. On doit remettre tous les papiers, même si on pense qu'ils sont faux, on doit remettre les papiers aux jeunes. Hein.
Voilà.
Si le procureur veut le poursuivre éventuellement, bon, ça ne se fait pas, mais ça pourrait se faire. Mais en tout cas, nous, on n'a pas à retenir les papiers. Et l'administration, encore moins. On a pas de...
Et les papiers en question avaient été déclarés non falsifiés par la police aux frontières. Et donc ça, c'était à Chalon. Hein, c'était donc RSF Chalon. Nous aussi à Chalon, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, a écrit dans un rapport sur un jeune Pakistanais, il n'est pas isolé car trop bien habillé.
C'est vrai qu'il y a, c'est très subjectif l'évaluation d'un jeune lors d'un entretien. C'est subjectif et effectivement, pour que le jeune soit protégé, il faut qu'il soit mineur et il faut qu'il soit isolé. Mais l'isolement, l'appréciation est variable d'un département ou d'un évaluateur à l'autre, mais la loi elle est très claire. L'isolement, c'est lorsqu'il n'y a pas de personne qui ait l'autorité parentale sur le territoire. Même s'il a un oncle, une tante, etc., si cette personne n'a pas reçu la délégation de l'autorité parentale, le jeune reste isolé, et donc doit être protégé, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Oui, et ça c'est important, et je pense que c'est pour ça. Bon, je suis pas dans les papiers du gouvernement, mais je pense que le fait de ne plus dire isolé est important. Parce qu'effectivement, quelquefois, on s'est aperçu que des mineurs avaient eu le temps de contacter tel temple sikh ou telle mosquée, qui faisait qu'ils avaient des compatriotes. Mais c'est un compatriote, même à quelqu'un du village, c'est pas le parent, donc il n'a pas aucune autorité, il peut rien faire, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir enlevé ce mot isolé. Parce que c'est bien sûr, il peut avoir un contact avec la mosquée, avec les gens du village ou des associations, vous savez, les associations maliennes, parce qu'il y a beaucoup de Maliens dans le 94, qui regroupent. C'est pas pour ça qu'il y a une autorité. Donc c'est vraiment non accompagné par les titulaires de l'autorité parentale.
Et pour compléter le panorama un petit peu qu'on peut avoir d'autres départements, je citerai cet exemple que j'ai eu. J'ai eu une éducatrice de Seine-et-Marne qui m'a appelé vendredi pour me parler de la situation d'un jeune qu'ils avaient dans leur foyer depuis 2 semaines, 3 semaines, et qu'ils devaient malheureusement remettre, enfin, ne pouvaient plus continuer de le prendre en charge. Et ce jeune avait été évalué par le service évaluateur de Seine-et-Marne, évalué comme mineur, mais elle me dit, le département refuse de le prendre en charge. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Elle m'explique, ce jeune avait d'abord été, il y a quelques semaines, évalué dans le département des Charentes-Maritimes à La Rochelle. Il avait été évalué majeur et c'est pour ça qu'il a fini par se rendre en région parisienne et est venu toquer à la porte de la Seine-et-Marne. Et là, elle me disait, mais on est désolé parce que pour nous, il est mineur. Enfin, physiquement, dans son comportement, tout tend à dire qu'il est mineur, mais le département refuse de le prendre en charge. Donc, pour ce jeune, elle me demandait un petit peu qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et je lui suggérais effectivement faire appel au juge des enfants et si possible plus la Seine-et-Marne puisqu'il était sur ce territoire-là que La Rochelle parce que c'est plus loin et que le jeune il faut qu'il puisse se rendre au tribunal, ce qui est pas toujours facile quand on est sans un sou à la rue au moins.
Non, puis l'idée de la loi, c'est quand même quand il y a un doute qui persiste, si ça doit rester favorable à la personne. Donc si on a un doute entre mineur et majeur, moi je suis désolée, moi j'ai une situation comme ça, je prends le côté mineur. Hein. Je ne vois pas pourquoi on privilégierait le côté majeur. Ça doit lui profiter, le doute doit profiter à la personne quand même. Et le dernier recours, c'est l'appel, effectivement. Ça sera la cour d'appel de Seine-et-Marne, ça doit être Paris aussi. La cour d'appel de Paris qui décidera si oui ou non on peut considérer ce gamin mineur. Hein, voilà.
Mais toute la difficulté, c'est, moi j'entends bien et j'entends les juridictions, j'entends le temps de la justice qui n'est pas le même que celui des gens qui font appel à elle, mais la difficulté c'est que ces jeunes qui vont passer par le juge des enfants, par éventuellement la cour d'appel, d'un département à l'autre, on a déjà vu que pour saisir et avoir une audience chez le juge des enfants, ça pouvait être très différent. Comme temps, et alors la cour d'appel, c'est 4-5 mois avant que la cour d'appel ne convoque une audience, et quand le jeune, il y a une contestation sur l'âge, bah, il reste dehors bien souvent. Et nous...
Pas dans le Val-de-Marne, hein. Nous, dès que par exemple le département fait appel, nous on maintient l'OPP, on maintient l'ordonnance de placement provisoire, et même si entre-temps la cour d'appel n'a pas pris sa décision, on prolonge. Ah non, non
mais ce qui est très bien, enfin ce qui moi me semble aller dans le bon sens dans le Val-de-Marne, mais qui malheureusement n'est pas le cas dans beaucoup d'autres départements,
bien sûr, c'est ce que
j'entends. Et que on parle très souvent d'intérêt supérieur de l'enfant et du doute qui doit profiter aux mineurs, enfin vaut mieux mettre à l'abri à tort un majeur que de laisser dehors un mineur. Et en fait, dans l'application qui est faite de cet intérêt supérieur de l'enfant, malheureusement, quand on voit les dispositifs d'évaluation, que ce soit Bobigny, Paris, les Yvelines ou le Val-de-Marne aussi, dans d'autres cas, le dispositif d'évaluation, eh bien, quand ils sont... La minorité n'est pas reconnue, c'est très difficile. Ensuite, ça peut être très difficile et très long pour pouvoir enfin faire reconnaître sa minorité, même si...
Oui, c'est pour ça d'ailleurs, je crois que la PAOMI à Paris a changé de nom. Hein, c'était quand il y avait eu l'occupation sous le métro Jaurès, en face des par des mineurs en face de la PAOMI.
En fait, il y a eu simplement la PAOMI qui était gérée par France Terre d'Asile, a été très contestée sur pas mal de points. Déjà sur le délai d'attente avant de pouvoir passer l'entretien d'évaluation, où quand les jeunes se présentaient, on les faisait revenir 2 semaines, 3 semaines après, ce qui était énorme pour un jeune qui est à la rue. Et puis, il y avait eu pas mal de mouvements d'associations et de collectifs devant les locaux de la PAOMI, c'était assez décrié. Et lorsque le département de Paris a de nouveau... fait un appel à projet pour gérer ce premier accueil et cette évaluation, elle a chargé, finalement, le département a chargé une autre association d'opérer ce dispositif. Mais voilà.
Voilà, puis je vois que le temps tourne très vite et qu'il va bientôt être temps de retrouver les oreilles loin du front. Donc il y avait quand même quelques sujets que j'avais envie d'aborder avant qu'on conclue, notamment, un petit peu rapidement, donc les CAOMI.
Alors,
CAOMI, donc centre d'accueil et d'orientation pour les mineurs isolés étrangers, où se retrouvent des gamins, je crois, qui étaient de Calais, dont on a déjà pas mal parlé dans les émissions précédentes, mais c'est bien de continuer à en parler. Et puis, je crois qu'il y a eu des mineurs aussi, beaucoup de mineurs qui ont été évacués la semaine dernière de rue de Flandre et Jaurès.
Alors pour les CAOMI, il y a une circulaire de Jean-Jacques Urvoas, donc ministre garde des Sceaux, une circulaire pour instaurer les CAOMI, centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés, qui sont à l'instar des CAO pour les réfugiés majeurs, des centres d'accueil très provisoires, visant à orienter, évaluer les jeunes et les orienter. Sauf que là, moi, ce qui me pose problème, c'est que à partir du moment où le jeune, on estime qu'il est mineur, il devrait intégrer le droit commun, il devrait intégrer la protection de l'enfance. Et là, on crée encore un dispositif dérogatoire où le jeune va rester en attente de je ne sais pas quoi, en attente de savoir s'il va pouvoir aller en Angleterre, en attente de voir si le mineur veut vraiment rester en France. Enfin, ça fait des années que pour les Afghans notamment, on leur disait « oui, mais on n'est pas sûr qu'il veut rester en France, donc vaut mieux qu'il soit... » On attend un petit peu, mais sauf que ça conduit à quoi ? Ça conduit à ce que des jeunes, par exemple évacués de Calais, soient transférés sans leur consentement, enfin sans leur dire où ils allaient, de Calais jusqu'à Fouras en Charente. Quand ils sont arrivés là-bas au bout de quelques heures de car, alors qu'on leur avait dit « vous montez dans le car, il y aura un officier britannique pour prendre les renseignements pour éventuellement vous envoyer en Angleterre, examiner votre demande », eh bien ils ont eu l'impression de s'être fait leurrer. Et dès le lendemain, il y avait la moitié de ces jeunes de Foura qui était déjà reparti dans la nature. Et je pense que les Kaomi, tels qu'ils ont été conçus pour l'instant, ne me semblent pas aller dans le bon sens dans le fait qu'ils n'intègrent pas le droit commun.
Moi, je suis d'accord. Hein. Dès qu'on sort du droit commun, c'est l'arbitraire complet. Hein. On devrait rester dans le droit commun qu'a imposé cette loi et qu'a organisé. Hein. Donc ces jeunes devraient bénéficier, comme tous les autres mineurs non accompagnés. Hein. Ils ne sont pas différents, même s'ils sont à Calais, même s'ils veulent aller en Angleterre. Hein.
Ça me semble un excellent mot de conclusion, mais peut-être vous avez encore des choses à ajouter. On sort du droit commun et on empile des dispositifs
qui vont vers l'arbitraire si on se laisse faire. C'est pas possible. On peut pas, un pays de droit ne peut pas avoir des dérogations. C'est pas possible. Autrement, il y aura contestation et puis des fois il y aura des dérapages et des situations à nouveau dramatiques pour ces mineurs. Hein. Parce que ce sont des mineurs quand même. Faut le rappeler hein. Quand même.
Oui, enfin, moi, je souhaite que l'année 2017, on est bientôt à l'époque des vœux, soit une année de progrès pour les droits des mineurs isolés étrangers. Malheureusement, ces dernières années, on est plutôt sur une phase déclinante de ces droits et j'espère vraiment qu'on arrivera à faire en sorte de rétablir le droit commun, les rétablir dans le droit commun et de rétablir tous leurs droits, notamment le droit à la scolarisation et à l'éducation qui est parfois bafoué selon les départements. Même quand ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Puis je crois qu'il y a aussi pas mal de mobilisations qui ont lieu à Paris en ce moment, où on a dit qu'il n'y avait pas de mineurs ou de lycéens ou de collégiens à la rue à Paris, et c'est pas tout à fait vrai, semble-t-il. Enfin, semble-t-il, on sait que c'est pas tout à fait, pas du tout vrai.
Il y a eu des efforts, mais il y a encore des efforts à faire. On en a une vingtaine, une trentaine qui, je crois, sont des jeunes scolarisés qui ne sont pas pris en charge et qui n'ont pas d'hébergement. Donc,
une vingtaine repérée par nous, c'est-à-dire par RESF et par l'ADJI, hein, aide...
Et défense des jeunes isolés étrangers.
Voilà, et donc la permanence, c'est rue de Flandre. Voilà, quel numéro ? Parce que ça peut être important.
C'est au 49 avenue de Flandre et c'est les mercredis soir et les samedis matin.
Voilà, donc c'est important s'il y a des mômes qui sont dans cette situation de se rendre à l'ADJI. Il y avait d'autres questions que je me posais, mais peut-être en une minute ou moins d'une minute. Un gamin, comment on fait pour décider qu'il est du 77, du 78 ou du 75
alors qu'il est en errance ? Normalement, c'est lui qui se présente.
Okay.
Soit parce que quelqu'un lui a dit bah voilà, ça peut être vraiment. À mon avis, c'est le hasard. Alors, il y a quelques fois, paraît-il, des organisations de certains mafieux qui disaient va plutôt là que là parce que tu as plus de chance. Hein. Ça a certainement existé. Hein. Mais souvent, c'est le hasard. Voilà. Mais il y a aussi des filières, paraît-il. C'est peut-être possible, ça, je ne sais pas.
Où il y a aussi des travailleurs sociaux ou des citoyens qui se disent qu'à Paris, c'est bloqué et qu'il vaut mieux aller dans un autre département.
Peut-être. Peut-être, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Maran Michon. Et merci, Renaud Mendel. Hein. Donc, je rappelle, donc, vous êtes juge
des enfants au tribunal pour enfants de Créteil.
De Créteil. Et Renaud, tu es éducateur spécialisé.
Je suis travailleur social.
Travailleur social.
Dans des centres d'accueil pour mineurs isolés étrangers, dans des permanences juridiques pour les aider au-delà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on en reparlera certainement très bientôt.